c'était les Japonais. Hein, et d'autres. Parce qu'une fois qu'on aura tué cela, et le jour où on va faire des femmes, où on n'aura plus besoin des femmes parce qu'on aura fait de la conception intra. On remplacera l'utérus par une, je sais pas moi, une ballon en plastique ou un truc comme ça, dans les laboratoires, hein, vous voyez, on pourra mettre un peu de sperme, un peu d'ovule, on secoue, on fait des gestations artificielles, les femmes, hop,
terminé.
Au four. Ah bah oui, ces êtres qui ne sont pas finis, non, ils ne sont pas clos, ce ne sont pas des boîtes de conserve, ils ne sont pas bien scellés, vous voyez, ils sont une ouverture sur la nature qui fait que ça bave un peu. Non mais c'est insupportable. Bon, ça c'est le plan imaginaire, mais moi je vous dis que c'est une affaire de fonction imaginaire du phallus symbolique, et ça on n'en veut pas. Bon, et ça s'appelle com, ça s'appelle point com aujourd'hui. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir l'écriture de la forclusion. Vous voyez, point com, voilà. Ça c'est pas mal, hein, bon. À côté de petit arrobas qui vient d'un élève de Russell, hein, c'est les informaticiens qui ont fait des exercices à partir de la logique minimaliste de Peirce, hein, où la négation, ça s'écrit comme ça. La négation, ça s'écrit en rond. Pareil. Ça, c'est vrai parce que le vide, c'est faux. Alors ça, c'est... Et pour écrire non-P, on écrit ça comme ça. Donc ça donne arrobas avec le A, la place du P, la lettre A.
Est-ce qu'on peut considérer, je reviens à votre affaire allemande,
oui.
Nazi, que le rideau de fer, c'était une droite infinie.
Alors attendez, ça, il faut...
Non, mais je pensais à rien, mais je pensais à quelque chose, c'est que le rideau de fer mesurait 1200 km. Donc c'était souvent du barbelé. Et c'est une usine allemande qui fournit...
Oui, bon, il y a un côté, de toute façon, des arbres. C'est un cercle, ça se ferme. C'est la droite infinie fermée.
Donc ce barbelé était en fait allemand. Il permettait de séparer...
Oui, il faudrait regarder.
Les deux hommes.
Il faudrait regarder de plus près. Moi, je pense qu'il se passe des choses de genre, puisque de toute façon, celui qui l'a fait sauter, c'est le pape polonais. Mmh. Hein, c'est... Bon. Le pape, de toute façon, c'est pas la question communiste, pas partagée, même Balladur, il est pour la...
Le pape, il est contre la vie.
Il est pour qu'on croit en Dieu, pas la déie. La déie, c'est l'athéisme. C'est la féminisée, déjà.
Parce qu'il a pété
le
mur.
Il a pété le mur et la... Bon, mais il faudrait voir de plus près tout ça. Bon, moi, j'en étais là à vous dire, forclusion, qu'est-ce que c'est? Forclusion, qu'est-ce que c'est que la psychose, vous voyez? Tenez-vous bien à ça. Vous avez un livre qui a été publié il y a quelques années, hein, par une dame, une bonne élève du sale gamin, là. Comment il s'appelle?
Colette Soler.
Oui, Colette Soler, elle s'appelle. Elle a écrit... Voilà, l'inconscient... Non, la psychose, hein, la psychose, l'inconscient à ciel ouvert. Psychose égale inconscient à ciel ouvert. Je dis que c'est une bêtise, mais elle a déjà été précédée là-dedans par le mec au laurier, là, qui a reçu la couronne sur la tête. Laurent, Eric, qui se posait la question, est-ce qu'il y a du transfert dans la psychose? Bon. Cette histoire, pour piger ce que c'est que la psychose, il faut tout de même que vous remontiez à l'article sur la famille de Lacan, dans les années 30. Il écrit qu'il y a deux sortes de névroses. Il y a les névroses de transfert qu'on peut traiter par la psychanalyse, puisque la psychanalyse, c'est le transfert. Attention, c'est pas exactement ça. La psychanalyse, il n'y a pas de psychanalyse sans transfert. Mais il peut y avoir du transfert sans analyse. Faites attention. Parce que c'est justement ça, la psychose. C'est du transfert sans analyse. Alors, donc, Lacan, il disait, il y a les névroses de transfert, on peut les traiter par la cure, et puis il y a les névroses familiales. Et les psychanalystes de l'époque, avant-garde, disaient les névroses familiales, on ne peut pas les traiter par la psychanalyse, puisque ce n'est pas les névroses de transfert, et que la psychanalyse, c'est le transfert. Oui, le raisonnement est simple. C'est une façon de se laver les mains. Le problème, c'est que Lacan, déjà, à l'époque, il doute de ça. Il dit, je ne vois pas pourquoi on dit que les névroses familiales ne sont pas des gifles qui se répètent de génération en génération, ça doit pouvoir être analysable. Le problème, c'est que ça ne l'est pas. Parce que ce n'est pas immédiatement transférentiel, au sens du transfert d'une expérience sexuelle infantile de l'enfant, c'est pas singulier. La psychose, ça relève du discours, ça relève pas justement du phénomène singulier, comme la névrose et la perversion. Bon. Alors là-dessus, vous avez donc l'idée qu'il y a des gens qui disent que le transfert, il n'y a pas de transfert dans la psychose, donc on ne peut pas l'analyser. C'est faux. Il y a du transfert dans la psychose. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que le transfert, il occupe toute la place et justement, on ne l'analyse pas parce que c'est exactement ce que dit Lacan dans la lettre volée, vous voyez. Quand il dit le gamin qui joue avec Edgar Poe, il joue à chercher un mot sur la carte de géographie et puis une manière de tromper l'adversaire, c'est au lieu de prendre un petit mot qui est tout petit dans un coin, c'est de prendre le nom d'un continent en entier. Vous voyez, quand vous prenez le nom du continent en entier, l'adversaire, il va chercher les noms d'une ville, d'un fleuve, d'une région. Mais quand c'est le continent URSS, vous souvenez, URSS était écrit avec quelques lettres comme ça établies sur la carte. Ça occupait tellement de place qu'on oublie de le regarder. Bon, c'est ça la lettre volée, il le dit. Hein. Là, quand Edgar Poe, il montre bien que la lettre volée, elle est entre les jambes de la cheminée, dans le jambage de la cheminée, elle est bien à sa place de signifiant phallique. Et la police ne la trouve pas. Edgar Poe, il va la repérer. Bon. Donc, voilà. Dans la psychose, il n'y a pas de transfert, disent les crétins, parce que le transfert, il est tellement là qu'ils ont oublié de le regarder. Alors, du coup, on ne peut pas dire que la psychose, par contre, c'est de l'inconscient à ciel ouvert, si c'est du transfert sans analyse. Pourquoi ? Parce que Lacan, il a toujours insisté que pour qu'il y ait de l'inconscient, il faut deux conditions. Un discours qui permette que l'inconscient existe. C'est ce qu'il appelle le discours capitaliste et scientifique. Ça commence avec Descartes. Hein, il s'est écrit par Marx dans la montée, comme ça, à la fin du Moyen-Âge. Changement de système de production. Dont témoigne Cervantes avec le Quichotte. Bon. Il y a un discours, un nouveau discours scientifique et capitaliste. Et, lisez télévision, il le dit précisément. Hein, il n'y a pas d'inconscient sans qu'on le lise. Il faut un sujet pour le lire. C'est ça l'analyse, lire. Bon. Il n'y a pas d'inconscient sans un sujet qui lit, mais pas sans un discours qui le considère comme ne calculant pas, ne jugeant pas, ne juge pas, ne calcule pas, ne... Qu'est-ce que c'est le troisième verbe ? Il ne juge pas, c'est une phrase de Gilson. Il ne juge pas, il ne calcule pas.
Il ne pense pas.
Il ne pense pas. Il se contente de travailler. Bon, ça, c'est dit Lacan, c'est le sujet du capital, le prolétaire idéal du capital. Donc, pour qu'il y ait du transfert dans l'analyse, il faut qu'il y ait le discours scientifique et capitaliste, sans doute. Ça, c'est pour ça que ça culmine aujourd'hui, là, dans Foincom. Les crises économiques, ça ne dérange personne dans ce domaine-là, vous voyez. On s'en fout qu'il y ait des crises. De toute façon, ils veulent tous faire de l'économie avec des modèles prédictifs et pas de modèles fonctionnels. Ils ne veulent pas de la linguistique. Même Saussure était assez faible là-dessus, mais ils n'en veulent pas. Lisez dans l'arrogance du présent, vous allez voir, Milner, il dit que ça s'est passé grâce à Althusser, il y a eu un développement, et puis grâce à Lacan. Mais que finalement, Lacan, il s'est perdu avec Joyce. Et que ça aboutit au silence. Ça aboutit au silence, voilà. Donc lui, parce que ça a fait mode un moment, mais ça ne marche pas. Bon. Moi, je dis que ça marche vachement bien, mais il faut être un peu têtu. Il faut être un peu décidé pour voir comment on apprend à lire. Parce que tout ça, c'est une affaire d'apprendre à lire. Et c'est ça qu'on ne veut pas et qu'on ne fait pas. Donc, Verwerfung, ça veut dire rejet, refus. Qu'est-ce qui est refusé ? Hein, le rejet du signifiant du nom du Père. La forclusion du signifiant du nom du Père. Le signifiant du nom du Père, c'est le désir par excellence. C'est le signifiant, c'est un signifiant banal et exceptionnel. C'est quelque chose qui est justement inscriptible, mais qu'il faut savoir lire parce que c'est de l'incorporel. Bon. C'est de la différence, c'est de la signification. Même lisez le pauvre Heidegger, qui devient nazi, il écrit un texte qui s'appelle Logos. C'est ce que Heidegger essaye de décrire comme Logos, qui est étendu là, entre nous, c'est l'héritage, c'est le legs. Lacan, il traduit, contrairement à l'édition chez Gallimard, Lacan, il traduit Logos avec une dame allemande. Et il trouve ce très joli équivalent en français, c'est logos, ça donne chez nous l'aigle. Ce qui est là est tendu devant nous, ce que nous recevons. Ça doit être forclos. C'est logos qui doit être forclos. C'est pour ça qu'on rabat la logique sur les arbres syntaxiques de Carnap, le cercle de Vienne, Chomsky, et pof, on n'entend plus rien. Bon. On n'entend plus quoi ? La grande différence, la différence freudienne, la répétition freudienne au service du refoulement. Qu'est-ce que c'est ? Ben, retournez la tapisserie pour avoir une idée du contraire de la psychose. Prenez le contraire, la névrose et la perversion. Le refoulement, qu'est-ce que c'est? Ben, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est que le refoulement si vous lisez ce que Freud a écrit sur le rire. Les mots d'esprit et leur rapport avec l'inconscient. Bon, premier chapitre, il énumère des mots d'esprit. Moi, j'ai proposé aux gens de Buenos Aires d'étudier ça. Le rire chez Bergson et le rire chez Freud. Les jeux chez Caillois et les jeux chez Benveniste. Bon. Tout ça pour faire une théorie de la lecture. Hein. Puis évidemment, l'empereur Julien et l'art d'écrire de Kojève, et puis Léo Strauss et son La persécution et l'art d'écrire, hein, que Lacan cite dans l'instance de la lettre. Bon. Ça existe en français, ça. Mais c'est un peu plus compliqué quand on lit Léo Strauss sur Maïmonide, Spinoza. Mais il faut lire ça. Il faut lire ça pour commencer à faire une théorie. Pour que le freudisme soit quelque chose qui n'ait plus rien à voir avec un rituel, une mystogamie, une gesticulation, il faut se poser la question. Nous ne savons pas ce que c'est lire. Méchonnet qui disait ça très joliment. Il dit il n'y a pas que les malades mentaux et les enfants en bas âge qui ont des difficultés avec la lecture. Ce n'est pas une carence spéciale. Nous avons tous des difficultés avec la lecture. Nous ne savons pas lire parce que nous ne savons même pas ce que c'est que lire. Et Méchonnet qui le dit très très bien. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a? C'est que les études, on vous fait faire des études pour apprendre à lire, mais quoi? Dans vos études, on va vous sélectionner, on va vous ventiler, là, on va mettre le meilleur en tête et puis le moins bon de côté. Bon, donc qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut passer son temps à planquer qu'on ne sait pas lire. Alors, ça donne à peu près ce qu'on connaît comme académisme, érudition. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent un peu parce qu'ils ont un petit talent de société, grâce à leur famille, bonne éducation. Et puis, ils cachent qu'ils ne savent pas le reste. Regardez, les normaliens, c'est pour ça que c'est génial. Milner, c'est génial. Il n'est pas capable de lire Lacan. Il peut lire Althusser, il peut lire plein de choses. Il peut lire même le cardinal de Ray, c'est vachement bien. Bon, moi, je trouve que c'est très intéressant de lire Milner, de lire Méchenic, de lire des gens qui savent un peu lire, mais ils savent. Il y a des tas de choses, ils ne savent pas, ils ne savent même pas ce que c'est. Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est la lecture? Eh bien, voilà. Le rire, quelle est la théorie de Freud? Quand il a fini d'énumérer un certain nombre de mots d'esprit pour nous montrer qu'on pouvait faire une petite tentative d'étude phénoménologique, justement, du mot d'esprit, de l'esprit, il cherche au début. Il fait que c'est classique, quoi. On énumère, comme Caillois, il énumère les jeux, il y a les jeux de hasard, les jeux de compétition, les jeux. Il introduit des choses très jolies, qui est quand même le mimétisme, c'est-à-dire les jeux de semblance, et puis ensuite il introduit, il dit il manque quelque chose, il trouve le vertige. Ben oui, les jeux de la foire du trône, hein. Le Valador mexicain, c'est du vertige. Bon. Donc on essaye d'énumérer les phénomènes qu'on peut réunir dans un dossier, mais on n'arrive pas à une définition dans beaucoup de cas. D'ailleurs, Caillois le dit, personne le dit, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est que le rire, on ne peut pas trouver de définition. Caillois dit pareil pour le jeu. Le jeu, il donne des définitions. Lui, il donne des définitions, mais il dit. C'est, tous les deux, tous disent il y a tellement de phénomènes qu'on réunit sous le nom de jeu, sous le nom de rire, qu'on se demande qu'est-ce que ça a à voir, qu'est-ce que les uns ont à voir avec les autres. Il faut passer à une définition fonctionnelle. Et qu'est-ce qu'il dit Freud? Freud, il définit le rire. Lisez le deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que le rire, c'est pas du tout le défoulement. Alors ouais, voilà, vous voyez là, où nous conduit les mauvaises traductions de Freud avec trip, qui est traduit par pulsion, compulsion, expulsion, tous ces mots qui vous font dériver l'oreille et qui fait que vous êtes plus capable d'entendre ni de lire, même quand c'est silencieux. C'est une question d'oreille, d'incorporelle. Donc vous avez ces gens qui vont comprendre qu'ils croient que le rire, c'est quand quelqu'un a dit quelque chose, puisque le rire, c'est le produit du fait de contourner la censure. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas dire. Vapro existe, on ne doit pas dire ça. Si quelqu'un le dit, ça va faire rire tout le monde. Donc, on n'en parle pas. Et qu'est-ce que c'est que le rire? Ben, c'est ce qui est refoulé. La plupart pensent que c'est le défoulement. Mais pas du tout. Freud, il explique très précisément. Il dit, qu'est-ce que c'est le rire? Le rire, c'est l'énergie que nous mettons, hein, à lutter contre ce qui doit ne pas être dit, ce qui est refoulé, voyez-vous. C'est donc, il y a comme ça, c'est comme les presse-boules, vous voyez. On appuie, mais il n'y a pas de livre au milieu. Il n'y a pas de livre. Le refoulement, la grande répétition, la répétition freudienne, c'est une énergie énorme qu'on met comme ça à presser rien. Et qu'est-ce qui se passe? Le rire, c'est quoi? C'est cette énergie qu'on met qui se libère et qui fait que, hop, on rit. C'est la même chose à la fin d'un concert ou d'un spectacle, des applaudissements. On applaudit parce qu'il y a une énergie qui est l'énergie du refoulement. C'est pas l'énergie de ce qui est refoulé. Le refoulé n'est rien. Freud, il a mis toute sa vie à passer de la première topique à la seconde topique. Il a cru d'abord que c'était la société qui n'était pas bonne, qui est obligée de réprimer. Ensuite, il s'est aperçu que c'était peut-être structural. Ça donne la seconde topique. Et dans le rire, il le dit très très bien. Lisez le deuxième chapitre, il dit c'est l'énergie que l'on met à réprimer parce qu'on se retient, on ne veut pas dire, on ne doit pas dire tout ce qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas parler aux voisins. C'est cette énergie, si tout à coup on s'aperçoit, parce que le mot d'esprit révèle la vérité qui est un pur vide, hein, c'est de l'incorporel, c'est de la différence et de la répétition dans la différence. Si vous voulez savoir ce que c'est que la répétition freudienne, la répétition dans la différence, prenez un miroir, regardez votre image, votre gueule dans le miroir. Vous allez voir ce que c'est que la relation intrinsèque-extrinsèque. Si vous voulez le comprendre d'une autre manière, prenez une carte, un plan de Paris, et promenez-vous dans la ville en suivant le plan de Paris. Quand vous lisez le plan, vous êtes extrinsèque à la ville. Vous êtes comme par avion. Vous volez en hélicoptère au-dessus de la ville. Vous avez une position extrinsèque. Et puis quand vous êtes sur le territoire, en train de marcher dans la rue, vous êtes intrinsèque au territoire, à la ville. Et ce rapport entre l'intrinsèque et l'extrinsèque, ça s'appelle le narcissisme. Ça s'appelle la répétition freudienne. Lire, c'est faire deux choses, même contraires. Vous voyez pourquoi Madame Manoni, elle était un peu légère avec Palo Alto, quand elle déclarait que Palo Alto, c'était pas bien, parce qu'il y avait les doubles contraintes, le double bind, hein, de Palo Alto, les gens qui étudiaient la communication déjà, en Amérique. Elle va chercher ça plutôt que Lacan, on ne comprend rien. Lacan, il nous parle du logos, alors vous voyez, il nous traduit Heidegger, il nous parle du logos. Vous savez, vous avez jamais imaginé pourquoi la psychanalyse ça a marché dans le monde entier? Réfléchissez simplement que le mot logos avec lequel se débat comme un fou le Heidegger, que Lacan essaie de traduire, c'est quand même que logos qui veut dire le fait de dire, parler, le vide, c'est pas parce que les paroles sont des mouvements d'air, c'est pire. Dans le dire, lui, il est inscriptible. Le dire, l'énonciation en tant que telle, c'est vraiment la fonction de l'absence. Bon. Mais regardez comment commence Heidegger le mot logos. Il explique que le logos, c'est ce qui est étendu là. Donc étendre quelqu'un sur un divan, voilà, Freud, il a fait un truc complètement incroyable. La traînée de poudre de Freud, c'est lié au fait que dans la culture occidentale, le mot logos, c'est un problème pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que parler? Qu'est-ce que c'est que écrire? Qu'est-ce que c'est que lire? Et quand un type propose de lire en allongeant, en étendant, ce qui est recueilli là, vous voyez, la récolte, c'est allongé comme ça, ce qui n'est pas allongé, ce qui est étendu là dans le champ, qu'il va falloir réunir pour le mettre dans le grenier, ça c'est logos, vous voyez, c'est l'héritage aussi. Je vous ai déjà dit, c'est ce qui est là étendu devant moi, ce qui m'est donné. Hein? Il y a le fait que l'étymologie du mot logos, est-ce que vous pensez qu'il y a un esprit occidenté, sensé, qui peut supporter ce que je suis en train de raconter comme connerie? Que ce serait à cause du mot logos que Freud serait Freud. Vous voyez? Parce que dans le mot logos, vous allez à la fois parler et étendre. Bah, vous pouvez dire ça comme ça si vous voulez, mais là, vous virez. Bon. C'est un peu du dénigrement. Le problème, c'est que c'est pas logos, c'est quelque chose qu'on retrouve dans... Qu'est-ce que c'est logos pour nous? Pour nous, ça survit dans des mots. Vous avez remarqué qu'il y a des disciplines qui s'appellent, qui finissent en logie, et d'autres en ic. Linguistique, ils n'ont pas dit lingologie. Ils auraient pu, parce qu'on dit topologie. Quand c'est assez noble, on met logie. Voilà. Il faut que ce soit un peu au-dessus. Cosmologie, zoologie. Mais on dit botanique. Les plantes, elles sont un peu cons.
Œnologie.
Oui, par exemple. Mais il y en a plein. Bon. Et donc, vous avez des trucs en ic. Hein, c'est moins dit.
Puis en ri. Linguiste ri.
Oui, mais ça, c'est Lacan. Mais vous avez en ic, vous avez linguistique, vous avez arithmétique. géométrie, c'est pas il n'y a pas logie, il y a pas. C'est-à-dire que tout ce qui est cosmologie, anthropologie, ah là, l'objet est beaucoup plus digne. Bon. C'est là que survit quelque chose. Bon, c'est extrêmement logos, hein, vous voyez, à côté de être étendu là devant vous, et puis parler, le fait de dire, vous voyez que le logos, il en a pris un coup, hein, depuis les Grecs. Mais alors justement, Freud, il a remis ça sur la scène. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que le rapport intrinsèque-extrinsèque de la topologie, c'est la présentation que je vous propose, qui est la plus difficile et en même temps la plus accessible à cette notion de répétition freudienne au service du refoulement. C'est qu'il y a deux choses qui sont la même et on ne sait pas comment les identifier ou les distinguer. Et justement, c'est toutes les solutions qui viennent de l'autre sont traumatiques. Elles viennent trop tôt. Le sujet veut trouver sa manière de lire à lui. Comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, hein, chacun lit ce qu'il veut. Bon. Donc le problème, c'est que je ne veux pas de la lecture des autres, je veux inventer ma lecture. Et alors, Lacan, il vous parle de ça, et il dit, lisez ce texte de Lacan qui est incroyable, et absolument magnifique, hein, qui s'appelle, dans les autres écrits, en français, c'est un compte-rendu d'un de ses séminaires, c'est un compte-rendu du séminaire, le séminaire qui s'appelle « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse ». Quand il a présenté à Rudulm son séminaire à un nouveau public, il a fait les quatre concepts, le numéro 11, comme au Panthéon, quand il va avoir un nouveau public, un nouveau local, il va faire les quatre discours, quatre concepts, quatre discours, quand il présente son séminaire. Mais la suite du séminaire, là, identification, angoisse, rupture avec les noms du père, ça recommence « Problèmes cruciaux ». Et dans « Problèmes cruciaux », qu'est-ce qu'il dit ? Et ça continue jusqu'à d'un autre à l'autre, et puis coupure avec les quatre discours, à l'envers de la psychanalyse, et puis il reprend d'un discours qui ne serait pas du semblant, ou pire encore. Bon. Donc il faut découper les séminaires. C'est comme les écrits, il faut faire un découpage pour lire. Il faut toujours découper pour lire. Et là, il a fait donc un très joli petit compte-rendu qui fait trois pages. Lisez ça. C'est 199 à 202. C'est même pas trois pages, c'est un, deux, trois pages et demie. Bon. Et là, il vous parle de l'être du sujet. Et il a cette phrase extraordinaire, il dit « Le sujet se refend d'être à la fois effet de la marque et support de son manque. » Tout le monde s'arrête avant ça. Tous les lecteurs de Lacan, tout le monde. Même moi, j'y arrive pas. Moi, j'arrive, je piétine, je me fatigue, je m'énerve, je m'amuse, je colorie, je fais des coloriages, je fais le con, bon. Mais quand même, j'arrive, moi j'ai de la chance, j'ai aucun mérite, je suis le plus jeune. Moi je suis le Perceval de la psychanalyse, je suis arrivé après. Donc j'ai trouvé le Graal, parce que c'est les aînés qui croient ça vrai. Les aînés ils détestent, hein, les chevaliers de la table ronde, ils détestent Perceval. Hein. Les aînés, Ivanhoé, Tristan, tout ça. Bon. Yvain, le chevalier au lion. Il déteste le petit qui se fait aider par les petits animaux. C'est Blanche-Neige. Je suis un peu Blanche-Neige.
Aujourd'hui ?
Oui, c'est comme ça. Les grands, ils ne s'intéressent pas à des choses comme ça. Parce que il faut aller jusqu'au bout. Tout s'y s'arrête. Alors, le plus digne, c'est Safran. Safran, il me le dit franchement. Il dit, moi, après 62, après Thor, là, déjà les cercles de Villarson, je ne comprends rien. Et quand Lacan met deux Thor enlacés au tableau, je ne comprends plus rien. Bon, il s'arrête en 62. Miller, il s'arrête en 70. Il dit radiophonie, quand Lacan fait question 3 sur la métaphore, la métonymie, là, ce qu'il dit, je ne comprends plus rien. Il dit ça à Bruxelles, dans ses publiés en numéro 2 de Quarto. Ça s'appelle la topologie de Lacan. Il révèle son sartrisme, il est sartrien. Il dit, voilà, Lacan, il a fait un progrès sur Sartre, c'est que le sujet chez Lacan, c'est une coupure. Ce que je vous dis du refoulé, il n'y a rien. C'est une coupure, c'est un vide. Ça, Miller, il a remarqué que c'était différent. Ce n'est pas pareil chez Sartre. Bon. Mais il s'arrête là. Il dit, après ça, je comprends plus rien. Bon. Milner, pareil, c'est la même année, parce qu'il va à Princeton, en 71, grâce à Jacobson, il va rencontrer Chomsky, il devient Chomsky. Bon, il s'arrête. Moi, je leur en veux pas. Eux ils me détestent parce qu'ils sont jaloux, parce que c'est des pays qui sont très jaloux. Ils sont gâtés, ils sont jaloux. Mais moi, je les respecte tout à fait. Je pense que c'est absolument infernal. C'est une machine infernale. Voilà. Le problème est le suivant. Si on veut faire une doctrine de l'inconscient sérieuse, vous voyez, même les masochistes, ils mettent le petit bout du petit bout du petit doigt dans la machine infernale. Le mot machine infernale, hein, c'est le syntagme, ça vient de Cocteau. Et là, quand on l'emploie dans la machine infernale. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à la balafre, le coup de fouet. Est-ce que c'est une lettre ou pas? Est-ce que c'est lisible ou pas? Voilà. Et évidemment, il faut être Lacan pour entendre ça. Pour entendre ça chez un masochiste qui lui parle de son masochisme. Les autres, ils croient que le mec, il aime souffrir. Pourquoi ils font de la psychologie? C'est vrai que le masochiste, il aime bien qu'on s'occupe de ses affaires à sa place. Il est là, il entend tout. Hein, il est comme dans le coma. C'est le sujet idéal des hôtesses de l'air dans les avions. Vous voyez. Le mec complètement comateux, paralytique, complètement, comment on appelle ça, paraplégique. Et puis on s'occupe de lui de tout. Bon, ça il adore ça, le masochiste. Maman s'occupe de tout. Bon. Mais il y a plus que ça dans le masochisme. Je vous dis, il y a la balafre. C'est toujours rapporté à l'écriture et à la lecture. Si vous interprétez d'une autre manière, phénoménologique, vitaliste, organiciste, mécanique, vous n'êtes pas dans le foisonnisme. Vous pouvez lire de d'autres manières, vous pouvez faire des analogies, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas freudien. Lacan le dit très très bien dans les conférences aux États-Unis. Schreber, il est encore plus à l'aise, Freud. Pourquoi? Parce que c'est un texte écrit. Et là, quand c'est écrit, Freud est un champion. Parce que c'est un champion de l'écriture et c'est un champion de la lecture de ce qui est écrit. Celui qui est de la parole, justement, c'est Lacan. Lacan, il est dans la tchatche. C'est pour ça qu'il y a une différence. C'est la même psychanalyse, mais il y en a un qui l'écrit et qui lit, l'autre, il lit et il parle. Bon, c'est une petite différence. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette doctrine psychanalytique? Lacan, il a cette formule de dire, voilà, ma doctrine, elle est tout le temps. Elle n'est jamais une théorie. Le discours analytique ne doit jamais être une théorie, au sens précis. Lisez ce que c'est qu'une théorie. Hein. C'est encore dans ces conférences de Heidegger. C'est la théorie comme vision. La raisonnement du réel. Bon.
Contemplation.
Comment?
La contemplation.
Oui, il dit, initialement, chez le grec, théoria, ça vient de contemplation. C'est une vision. Bon. Et il y a de ça. Bon. Donc, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la doctrine, c'est pas une théorie. Pourquoi? Parce que le délire... dans la psychose, aussi bien que d'ailleurs le refoulement dans une phobie. Il faut parler avec un enfant dans une phobie infantile à 5 ans, là, comme le petit Hans avec son père, pour s'en rendre compte. Ça ne s'arrête pas. C'est du poker menteur sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça que les thérapeutes, là, nos grands psychothérapeutes, là, qui sont tous des lâches, ils n'aiment pas les addicts. Là, ils disent que les drogués, c'est des gens pas bien, les alcooliques ou... Bon. Pourquoi l'addiction, bon, bien sûr, c'est assez con parce que quand on va chercher une substance pour justifier la dimension dont il est question, c'est un peu bête. Regardez, il y a une addiction qui est beaucoup plus structurale, c'est l'addiction au jeu, ceux qui jouent, hein, les joueurs, et ça peut aller loin, hein, le jeu. Jusqu'à la mort, mais aussi, même sans être dramatique, c'est jusqu'à des drames extraordinaires. Et bien là, il n'y a pas de substance. Enfin, si, il y a une substance, quoi, le tapis vert. Et regardez comment l'addiction, ça fonctionne dans les matchs de football. Parce que tous les hooligans, tout ça, c'est de la phobie, c'est pas analysé, il n'y a pas d'analyste. Il n'y a pas d'analysant. Les analystes, on s'en fout, mais il n'y a même pas d'analysant pour devenir analyste. Alors, personne ne lit, donc tout ça, c'est adressé à Sarkozy qui va dire c'est des quoi? C'est de l'ADN. Il y a une molécule qui fait que les jeunes se suicident. Le suicide des jeunes, c'est le fait d'un déficit biologique. Donc on va leur donner des vitamines. Bon, vous allez voir, ça va être formidable. Bon, non, mais c'est quand même un scandale, parce que les gens qui sont censés être... qui veulent prendre la responsabilité de parler au nom de tout ça, on va dire du freudisme et Lacan, eh ben, ils sont. Moi, je viens là de Buenos Aires, il y avait le colloque de convergence. 1500 personnes, autant que dans les colloques de Miller, l'école mondiale. Il y a Lally, ils ont un séminaire à Villiers. Miller, il a un séminaire à Villiers. Ils se font la guerre grâce à ça, Lacan. il a réussi à faire publier son séminaire. Génial. C'est tout ce qui l'intéressait apparemment dans cette période courte, immédiatement après sa disparition. En 30 ans, les séminaires sont publiés dans plusieurs versions. On peut tout lire. Ce n'était pas le cas il y a 25 ans.